paracha nous parle ? Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, Torah Box Radio, depuis Yerushalayim, Jérusalem, capitale éternelle et indivisible de notre État, Eretz Israël. Bienvenue à notre émission, la paracha nous parle. Nous espérons que vous vous portez bien, Rav Ilan Fitoussi au micro. J'espère que nous allons, à travers cette nouvelle émission, apporter encore d'autres enseignements qui nous seront pratiques. Cette semaine, paracha de la semaine, parachat Vaishlar. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous allons, pendant cette heure, nous donner sur un thème que j'ai choisi, qui est paresse ou effort. Que choisir ? Notre mail est ouvert. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à radio@torah-box.com, radio@torah-box.com, et nous tâcherons de lire chacun de vos messages. On se rendra dans un instant après une page de publicité. À tout de suite.
La paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.
Paracha nous parle ? Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission La paracha nous parle. Et donc cette semaine, nous lisons la paracha de Vaishlar et donc le thème que nous allons aborder durant cette émission, paresse ou effort, que choisir ? Dans cette paracha de Vaishlar, donc, on nous raconte que Yaakov était resté seul. Un homme a lutté avec lui jusqu'au lever du matin. Voyant qu'il ne pouvait le dominer, il a mis un coup à sa hanche. Et donc, la saillie de la hanche de Yaakov s'est enfoncée pendant qu'il luttait avec lui. Ça, c'est le texte comme il est indiqué dans cette paracha de Vaishlar. Sur ce, Rav Esraïm, grand maître du XXe siècle, qui nous a quittés quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, explique que la hanche est le support de tout le corps humain. Elle symbolise ceux qui soutiennent l'étude de la Torah. L'ange, dans son combat contre Yaakov, a voulu empêcher ceux qui soutiennent financièrement la Torah de jouer leur rôle. Nul doute que l'enjeu du combat mené ici ne se limitait pas au seul domaine matériel. Il s'agissait d'une lutte universelle engageant le prince Esav, un véritable ange, et toute la pérennité spirituelle de Yaakov. Cette lutte sans merci devait déterminer qui hériterait de ce monde-ci et du monde futur, héritage qui dépendait lui-même de l'endurance dont ferait preuve Yaakov durant cette longue nuit, symbole des ténèbres de l'exil. Si Yaakov parvenait à lutter sans relâche jusqu'à l'aube, donc jusqu'à la Géoula, et donc la délivrance. Donc ça veut dire que nous sommes dans ce chemin-là. Il faut quand même mettre une lecture de la paracha de Yaakov à notre temps, 2020, 5781. Alors il serait le vainqueur spirituel de ce combat existentiel. Ici, l'essence intérieure de Yaakov se distingue, parce que la Torah donc dit en donnant un coup à la hanche. L'ange d'Essav a toutefois porté atteinte à Yaakov sur un certain aspect. Lequel ? Alors, il faut savoir que Yaakov, c'est le symbole de l'homme pieux. Nous avons dû il y a deux semaines dans Parashat Toldot qu'il est Ishtam Yoshev Oalim, c'est celui qui assis en train d'étudier la Torah. Et donc, pour toutes les générations, puisque la Torah, la Gemara, lui dira dans Talmud, Tanit, que Yaakov Avinu lo met, que Yaakov, notre patriarche, n'est pas mort, comme même nous avons sa sépulture à Hebron, il n'est pas mort tant que les bénis Israël, tant que nous, les Juifs du monde entier, sont dans ce cheminement de la Torah, alors le personnage de Yaakov ne peut pas disparaître. Or, même chez ces hommes de valeur, on assiste parfois à une situation ambiguë, où ils atteignent la perfection dans une part importante de leur personnalité, mais délaissent certains autres aspects. Il peut s'agir d'éléments non négligeables de son travail spirituel, comme une carence idéologique auquel ils auraient dû prêter attention, car au cours de son existence, l'homme peut être confronté à des questions, à des problèmes. Il lui incombe donc de les affronter, de les résoudre à la lueur des enseignements de la Torah. Quelle est la conséquence d'une telle négligence, d'une telle paresse ? Elle peut s'avérer fâcheuse. Si l'homme se leurre, qu'il se donne l'illusion d'avoir accédé à un degré de perfection satisfaisant, il s'expose à un très grave danger. Il est impératif de résoudre ses problèmes individuels et d'amender son caractère, car ce sont les midot, les traits de caractère de l'homme qui façonnent sa personnalité, qui la forge. Comme la hanche qui est le support du corps et sans laquelle l'homme perd tout aplomb. Cette déficience dans son caractère, surtout s'il s'agit d'un érudit de Torah, peut conduire à un effondrement total de la personnalité, voire à un chilou d'Hachem, à une profanation du nom d'Hachem. La hanche d'un tel homme n'a pas le droit d'être vulnérable et surtout pas endommagée. Hamim dans le Moussar disent qu'il était question de ce qui est marqué dans les Perkei Avot. Prépare-toi à étudier la Torah car elle n'est pas héréditaire. Et les Chachamim, dans la pensée juive, donnent l'exemple d'une personne s'étant terriblement appauvrie, mais qui continue pourtant de porter avec ses haillons la somptueuse montre en or qui lui reste de sa richesse dans le temps. À ceux qui s'en étonnent, il explique « Cette montre est un héritage de mes ancêtres et jamais je ne me résignerai à la vendre, bien qu'elle ne corresponde plus du tout à ma situation aujourd'hui. » La Mishnah donc semble nous transmettre ce message. Pour le juif de Torah, un tel paradoxe est inconcevable. Il ne peut se permettre de porter des habits souillés. Le vêtement est une allusion au midot qui habille la personnalité et donc qui est totalement incompatible avec un niveau élevé de connaissances et de limoud, référence à la montre en or, car celui-ci n'est pas héréditaire. Et l'argument invoqué par cet homme désargenté ne peut être repris à son compte. La Gemara dans le traité Shabbat dira « Qui est Tamid Chacham ? Qui est un sage de la Torah ? Celui qui prend soin de mettre son vêtement convenablement. » Le vêtement de l'homme, on l'a dit, ce sont ses midot. Donc un Tamid Chacham doit savoir employer chacune de ses midot au moment nécessaire avec le dosage approprié. Ceci n'est réalisable qu'à la condition de maîtriser à la perfection chacune d'entre elles. Lavan, dont on a parlé la semaine dernière, longuement, dans cette paracha de Vayetse, était un rachat, un mécréant notoire. « Va voir ce que voulait commettre Lavan à Arami à l'encontre de Yaakov Inou. » C'est ce que l'on dit, peut-être rapidement, en faisant pas attention, le soir du Seder de Pessah dans la Haggadah. Et de fait, l'anagramme du mot « Lavan », c'est « naval », c'est-à-dire « corrompu ». On peut donc s'étonner que Lavan signifie également « blanc », symbole de la pureté, et qui a été attribué à un escroc du calibre de Lavan. On peut également se demander par quel mérite Lavan a pu engendrer des filles qui sont devenues les femmes de Yaakov, Rachel et Léa. Pour cela, il faut comprendre qu'une personne n'est pas monolithique. Elle est composée de sentiments, de pensées, d'un vécu, qui contribue à lui montrer le droit chemin. Ce sont en effet les épreuves de la vie qui peuvent conduire l'homme à la perfection, car la plus grande des sagesses réside dans l'expérience. Cependant, une personne peut raffiner spirituellement, qui se focalise essentiellement sur la recherche des plaisirs éphémères, elle ne sera intéressée par rien d'autre. Elle ne vivra que pour un instant immédiat et ne tirera aucune leçon des expériences de la vie. un rayon de lumière qui est symbolisé par le blanc peut être divisé en un ensemble de couleurs qui forment les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce rayon de lumière blanc et ordinaire peut ainsi donner naissance à toutes les nuances de couleurs, dans toute leur richesse et leur diversité. Et réciproquement aussi, toutes ces couleurs peuvent se réduire à un simple ray de lumière blanche. La simplicité doit engendrer une accumulation de richesses. Toutes ces richesses, elles doivent tirer leur source de cette pureté, voire même la reformer en cas de nécessité. Le blanc, c'est bien la couleur de la pureté, mais celle-ci doit non seulement engendrer un enrichissement, mais aussi naître de lui et de l'accumulation d'une expérience fructueuse. La vanne était ordinaire, totalement indifférent aux expériences de la vie et démuni du moindre enrichissement spirituel. C'est ce que la Torah suggère en attribuant ce nom à une personne qui ne se souciait que de profits matériels et temporaires, car son intériorité n'était pas différente. Et sa malhonnêteté était telle qu'il réussissait à camoufler sa corruption sous un masque de pureté. Cette pureté fondamentale, innée en lui à la naissance, est en fait la raison pour laquelle Israël et Rivka ont envoyé Yaakov chez lui, à Haran. C'est aussi la raison pour laquelle il a eu le mérite d'engendrer Rachel avec Rachel et Léa. Mais Lavan n'a pas su utiliser cette pureté à bon escient. Sa malhonnêteté foncière a porté atteinte à cette bonne nature et au fil des ans, il s'est départi de sa pureté originelle, qui ne voulait jamais ce qu'elle aurait dû être, une expérience enrichissante. À l'opposé, le sage, le juif qui vit à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers les bonnes actions, s'enrichit de son expérience fructueuse tout au long de son existence. Il parvient à évoluer grâce à un travail sur lui-même qui ne néglige aucun aspect de sa personnalité. Au-delà de son savoir, de son intelligence, il se forme à une perfection qui lui aurait été inaccessible sans un effort constant et assidu. Alors, le service d'Hachem, le travail de ses vertus, sont les raisons d'être de l'homme dans ce bas monde. Et donc cette question essentielle mérite toute notre attention et notre vigilance pour ne pas passer à côté de notre vie. Celui qui ne se sépare pas de la sagesse, de la paresse, pardon, il n'est pas maître de son temps. Il ne peut avancer dans le chemin de la vérité. La paresse, c'est l'un des défauts les plus dangereux. À tel point que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans Misilat Yesharim, en consacre plusieurs chapitres. Et Shlomo Ameler en fait une synthèse, même s'il a vécu avant le Ramchal. Mais la phrase, elle est aussi courte, mais remplie d'enseignements. Que le paresseux se vante de plus de sagesse que 7 conseillers avisés. Alors, évidemment, le Ramchal, il veut quand même nous rappeler que la nature de l'homme est d'être lourd. C'est ce qui le différencie de l'ange qui cherche à agir au plus vite pour faire la volonté du Créateur. L'homme est marqué par ce qu'on appelle la rafrout, la poussière. En effet, il est toujours à la recherche du sable chaud pour se reposer. À la chumriyut, la matérialité, en effet, il est toujours en quête de plaisir. Et à la gassout, la conjonction de ces deux phénomènes le rend grossier. L'homme ne doit pas se dire fatigué si on veut servir Hachem. Il faut être prêt à sortir au combat, agir contre sa nature, sinon il est certain qu'on échouera. Le Talmud, dans Gemara de Brachot, rapporte que la Torah et les Maasim Tovim, les bonnes choses, les bonnes actions, nécessitent un encouragement et une motivation de tous les instants. Et c'est ce qu'on dit tous les matins, chers amis, dans la Tfila, juste avant de dire Odu, au nom de Yehuda ben Tema Omer, Eve az kanamer, sois hardi comme la panthère, Kal kanesher, léger comme l'aigle, Raz katsevi, rapide comme le cerf, Vegibor kari, effort comme le lion, la sot reson avichash bashamayim, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'empressement brise la nature humaine, qui peut alors recevoir la lumière divine. L'homme ne doute pas qu'il faille se lever comme un lion de son lit. Pourtant, il ne parvient pas à le faire. Ce n'est pas parce que c'est par manque de conscience ou par manque d'intelligence, mais simplement par paresse et par lourdeur. Il pense que cela relève de l'impossible. Il se met à chercher des prétextes. Maintenant que nous sommes en période d'hiver, il fait froid, il pleut, et ça roule mal. Et puis lorsque ce sera l'été, il fait chaud, et à ce moment on s'est couché tard. Et à ce moment-là, le lit, le sidour, le livre de prière, le livre de Torah se ferme, et on abandonne à Kadosh Baruch Hu Chas V'Shalom par paresse. Si on demande au paresseux s'il n'a pas honte, il justifiera ses actes avec finesse. Il pense faire un calcul rationnel. Mais ce ne sont que des prétextes. Il pense agir avec sagesse, alors il ferme ses oreilles et son cœur à la vérité et se persuade qu'il n'a pas de force, qu'il fait ce qu'il peut. Il ne faut pas se lever trop tôt, manger trop vite, et le Ramchal signale que c'est par ce biais qu'on s'éloigne d'Hachem. Et le Sehara y piège tout le monde par ce moyen redoutable. Donc, c'est aussi nos problèmes de notre génération. Il n'est pas au niveau de la foi en Dieu. Nous savons plus ou moins l'importance de prier avec Minyan. Mais le problème est la paresse qui nous empêche d'agir en fonction des sens, du sens des priorités. Notre génération elle a été détruite par la paresse, la facilité sous-tendue par la technologie qui tue l'effort et procure le confort, ce qui rend la lutte encore plus difficile. Maintenant que nous avons identifié notre pire ennemi, il faut s'armer de courage et se battre contre lui, notamment en instituant un CDR dans nos vies, c'est-à-dire un programme avec des heures pour chaque chose, et s'efforcer à tout prix de s'y tenir en tâchant de s'améliorer constamment dans le domaine spirituel. Bien sûr, il faut manger, dormir, faire du sport, mais pas plus que ce qu'il nous faut pour être en bonne santé. La paresse empêche aussi de lutter contre la conscience. Elle nous fait penser que le combat est perdu d'avance car trop difficile et que nous ne sommes pas au niveau de le mener. Mais là encore, ce n'est qu'une illusion, car lorsqu'on décide de se purifier, dit le Talmud, Hachem nous procure une aide providentielle. Et donc, la paresse, c'est un mensonge. Si on combat 10 fois quelque chose, alors le problème disparaîtra. Tant que la difficulté est devant nos yeux, le Sahara nous la présente comme une montagne insurmontable. Mais dès qu'on a passé l'épreuve, on comprend que c'était qu'une illusion. Alors, faisons en sorte de comprendre que chaque moment, chaque occasion sera à nous donner le choix entre se lever et affronter la vie pas uniquement matérielle, mais aussi spirituelle, et surtout spirituelle, ou bien de dire non, je remets ma couette sur moi, j'attends que le temps passe. Mais le temps passera, et lorsque ce sera le moment de rejoindre le Créateur à 120 ans, il sera malheureusement, je pense, un peu trop tard pour y arriver. Pour ne pas nous briser nos expériences et notre force, alors un petit peu de musique va nous permettre de nous décontracter. Et puis on essaiera de trouver, Bézat Hachem, dans la prochaine partie de notre émission, des moyens pour nous renforcer, pour grandir. Et c'est le but de notre émission cette semaine. Paresse ou effort, que choisir? C'est le thème de cette paracha de Vaishlar que j'ai décidé cette semaine de parler avec vous. Et vous pouvez aussi réagir. L'adresse est la suivante, radio@torah-box.com. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
עבר עוד לא קרה שיום חזר מה שהיה היה ונגמר מה שיהיה זה כל מה שנשאר מה שהיה תם ונשלם אתה כבר לא הולך לשם מה שהיה היה ונסגר מה שפתוח זה רק צריך להאמין שאפשר לחכות עד מחר מחר השם שלך וכולנו נשמח ולא נצטרך עוד לבכות מחר הכל יתמהר הכאב ייגמר רק צריך להאמין שאפשר לחכות עד מחר לחכות
Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez La Paracha nous parle. Chaque semaine, nous vous proposons un éclairage sur La Paracha de tel et tel point de vue. Et le point de vue de cette semaine sur La Paracha de Vaishlar, c'est la paresse ou les efforts. Que choisir ? Et donc, comme nous l'avons dit juste avant la page de visiter, avant que chacun ait ravéché le moral à zéro, et sûr que la musique nous a permis, en tout cas, moi, ça m'a permis de pouvoir comprendre l'objectif qui est destiné et prévu dans notre émission. Comme on le sait, donc on l'apparaît, c'est un grand défaut pour le corps et pour la neshama. Et aucune preuve n'est nécessaire. La nature humaine, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu, du maître du monde. Certains sont dotés d'une nature vivace, active, qui sera récompensée. D'autres héritent d'une nature pesante et paresseuse. Ce défaut est très grave pour l'homme dans les choses de ce monde, et la plus forte raison pour la femme qui doit prévoir la marche de sa maison. Malheur à la maison, si personne s'en occupe, elle est abandonnée à un couple, à une famille paresseuse. Elle éveille alors des conflits, la jalousie, la haine, la compétition entre une bru et sa belle-mère, entre une femme et sa voisine. Et malgré tout, ces faux ne sont pas si graves si Hachem donne la fortune, car la paresse n'est alors pas tellement ressentie et ne fait pas d'impression, car le travail est effectué par d'autres. Par contre, la paresse, c'est une calamité pour les affaires spirituelles. Et bien qu'elle soit liée à une prédisposition congénitale, elle conduit inévitablement à la faute. Mais l'homme peut changer sa nature grâce à ses efforts et à son labeur, en se conduisant à l'extrême opposé, afin de revenir au juste milieu. L'homme domine son mauvais penchant, son Yetzara, et peut faire ce qu'il veut. La récompense sera relative à ses efforts, car il s'imposera des barrières préventives et des amendes. Et ainsi, donc, il maîtrisera sa paresse en utilisant des tactiques pour devenir aussi léger que l'aigle et tous les animaux qu'on a sortis tout à l'heure, uniquement, et c'est le plus important, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch. Il est très important donc de s'efforcer pour une bonne cause. aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Et bien que tout soit entre les mains d'Hachem, nous avons déjà dit que parfois la sagesse divine décrète qu'une chose ne peut avoir lieu sans qu'on y investisse quelque effort. Le zèle, de grands efforts, on arrive à la voie positive de notre émission, sont indispensables pour les questions de vie ou de mort. Pour sauver des juifs, autant que le courroux royal ne les condamne définitivement, puisque Hachem, qui est le maître du monde, il pourrait raser Shalom. À Dieu ne plaise, nous envoyer ça, et donc on prie pour qu'il nous en épargne. Combien de fois aurait-il possible de sauver la vie de prisonniers grâce à un minimum d'efforts ? Ce fut seulement par négligence, par peur des dépenses ou sous prétexte qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Ou bien qu'on a attendu que le feu soit attisé et qu'une fois encerclé par les flammes, on a dû beaucoup se démener pour le sauvetage lorsque cela était encore possible. C'est donc une obligation générale et en particulier pour ceux qui ont de l'influence et une bonne réputation chez les responsables du pays de sauver rapidement ceux qui sont faits prisonniers. Cela est comparable à quelqu'un pris dans un filet, car dès qu'il est pris, la pitié, elle est plus importante. Ainsi, les non-juifs n'éprouvent aucune pitié envers celui qui est tombé entre leurs mains. Le sauvetage de la vie d'un homme est si grand que toute la Torah est repoussée devant un risque mortel. À plus forte raison, le peuple d'Israël est-il contraint de dépenser tout son argent et même de vendre des siffrés Torah pour sauver la vie d'un juif? C'est ce que dira nos Chachamim dans le Sanhédrin, que celui qui maintient une personne juive est comparable à celui qui maintient tout un univers. Et notre patriarche Avraham Avinu était seul. Il a donné naissance à des milliers d'Israélites et le monde entier sort d'Adam, le premier homme. C'est donc un devoir pour chacun de n'épargner aucun effort, d'être zélé à faire son possible, et Hachem fera ce qui est bon à ses yeux. Il récompense dûment celui qui s'efforce comme s'il avait réaliser la chose. Maintenant que on est dans cette optique de prendre l'effort dans notre vie de tous les jours, alors chacun de nous a décidé donc d'être bon. Le problème est que chez la majorité d'entre nous, cela reste à l'état de projet. En effet, nous voulons monter, nous élever spirituellement. Nous voulons appliquer entièrement toutes les misotes. Nous voulons étudier la Torah. On veut. Comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, la paresse ne nous laisse rien faire. Lorsqu'un paresseux arrivera dans le monde futur, Hachem lui dira: mon fils, pourquoi tu n'as pas prié convenablement? Et il répondra: Ribono Sheola, maître du monde, tu sais tout. Tu sais que je voulais. Cela n'a pas marché. Et Hachem demandera à nouveau: pourquoi tu n'as pas récité Berakhat HaMazon comme il faut? Il dira: tu sais très bien que je voulais, mais j'ai pas réussi. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Et encore une fois la même chose. Et pour tous les autres, il répondra la même chose. Alors, le Tout-Puissant répondra ainsi: cher fils, crois-moi que je veux te donner le Gan Eden. Je le veux réellement et complètement. Mais que faire? Ça ne marche pas. Car celui qui n'applique pas les mitzvot en pratique, il ne peut pas recevoir le Gan Eden en pratique. Il faut savoir que le désir n'est pas suffisant. Il faut surmonter la paresse et agir, tout mettre en pratique. C'est ce que disait Rav Dessler. Il y a une différence entre avoir envie et vouloir. J'ai envie d'une glace et je veux une glace. J'ai envie d'une glace, si j'arrive à l'avoir, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais si je veux une glace, je vais me battre contre vents et marées pour pouvoir y arriver. Et si nous nous mettions à méditer sur le nombre de dégâts que la paresse peut provoquer, alors il n'y a aucun doute que nous entamerions une guerre totale contre elle. Imaginez, une femme se lève le matin pour aller travailler avec un retard d'une demi-heure. Elle sait pertinemment qu'elle va en prendre pour son grade par son patron, à cause du retard. C'est la raison pour laquelle elle est de mauvaise humeur depuis le réveil. Elle a réussi ce matin à frapper les enfants, à les gronder. Ils se rendent à l'école tout tristes et ils ne retiennent rien de leur journée d'études. En chemin, elle a vexé son mari, blesser sa voisine, et tout cela pour quelle raison? Parce qu'elle a voulu gagner une demi-heure de sommeil supplémentaire. Chers amis, est-ce que ça en vaut la peine? Shlomo Ameler a écrit « J'ai passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme privé de sens. » Nous sommes surpris, est-ce du fait qu'un homme est paresseux qu'on doit le traiter d'un homme privé de sens? Un homme privé de sens, c'est la pire des choses. Mais si on réfléchit, c'est la réalité. La paresse peut provoquer beaucoup de dégâts, au point que seul un homme privé de sens se conduira ainsi et n'engagera pas une guerre totale contre elle. En dehors de cela, il faut savoir que le fondement de la réussite, c'est d'être vif. Un jour, à la synagogue où je suis, un certain fidèle est venu me voir et m'a raconté son mécontentement d'avoir été licencié de son travail. Alors je voulais l'aider et je lui ai demandé de revenir le lendemain matin à la même heure. Il m'a annoncé qu'il ne pourrait pas. Il dit, monsieur le rabbin, je me lève à midi. Alors que dire? C'est invraisemblable qu'il ait tenu aussi longtemps à ce poste. C'est pas une solution d'accuser le monde entier. Un homme doit être actif et efficace et faire suffisamment d'efforts pour réussir. Si nous observons, nous constaterons qu'un homme est souvent paresseux lorsque cela l'arrange. Par contre, lorsqu'il désire réellement obtenir une chose, la paresse le quitte. À quel point cette nature qui a été enfouie en l'homme par Hachem peut l'influencer? Pouvons l'apprendre dans une des parachas du livre de Shemot, où il est marqué « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. » Ici, Hachem, il enseigne à Moshe d'ordonner Tetzavé. C'est la paracha dont est tirée cette phrase. D'ordonner aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile d'olive pour allumer la menorah. Ordonner avec un sens de vivacité, car il y avait lieu de craindre que sans une vivacité particulière, les enfants d'Israël négligeraient cette mitzvah et ne s'empresseraient pas d'apporter l'huile, parce qu'il s'agit d'une dépense. J'ai du mal à comprendre. On allumait le candélabre une fois par jour. Six lumières étaient allumées toute la nuit. Et la septième lumière était allumée jusqu'au prochain soir. Et ainsi durant toute l'année. Quelle était la quantité d'huile d'olive nécessaire? Quelques dizaines de litres pour chaque lumière. Toutes les lumières, un litre par un quart par nuit, divisé par 365 jours par an, soit à peu près 444 litres. Cette quantité est divisée par tout le peuple, au moins plusieurs millions. Dans ce cas, quelle somme devait donner chaque juif pour pouvoir allumer la menorah? Presque rien, même pas un centime. La menorah était une très grande utilité pour nous, l'âme Israël. Kohen Gadol mettait la même quantité d'huile dans chaque lumière, et chaque jour, le même miracle se renouvelait. Tandis que les six lumières ne restaient allumées que jusqu'au matin, la septième lumière restait allumée jusqu'au soir. Ce miracle s'est renouvelé tous les soirs pendant des centaines d'années. Chaque non-juif pouvait le constater. C'est la preuve de la grande importance du peuple juif pour Hachem, qui leur faisait des miracles jour après jour. Les enfants d'Israël devaient consacrer à peine un centime pour cette importante mitzvah. D'autre part, ils ont mérité un honneur phénoménal. Et une preuve que la Shekhina, la présence divine, était parmi eux. Pourrait-il y avoir un doute sur le fait qu'une seule personne évite d'amener de l'huile pour la menorah afin d'économiser ce fameux centime? Pourtant, notre Torah veut nous enseigner que ce risque existe vraiment. Hachem, qui connaît ce qui est caché, nous enseigne une leçon sur les forces physiques et nous dévoile à quel point la paresse peut influencer l'homme, pouvant lui faire négliger une action engageant la moindre dépense, bien que ce soit l'acte le plus positif en sa faveur. C'est la même chose aussi pour le korban, sacrifice qu'on apportait tous les jours à l'époque de Tamikdash, où c'est marqué « Tzav et Ben Israël », c'est le paracha qu'on lit à Rosh Chodesh, mais qu'on lit aussi tous les matins dans la tfila à Shacharit, « Ordonne aux enfants d'Israël, dis-leur, mes offrandes ce pain qui se consume pour moi en délectable odeur, vous aurez soin de me les présenter en leur temps. » Nous sommes de nouveau étonnés. Le sacrifice quotidien était le meilleur cadeau qu'a reçu le Ham Israël. Au lieu de mourir par leur faute, Hachem leur permet d'apporter un mouton de l'enclos qu'Hachem leur a donné et d'être pardonné de leurs péchés. N'est-ce pas la meilleure affaire possible? Mais l'homme ressent qu'il a pris un de ses propres moutons et il l'a donné pour ainsi dire à Dieu, et cela lui est difficile. Une injonction particulière a été nécessaire pour empresser les enfants d'Israël à appliquer cette mitzvah, même si on donnait $1 million à un homme. Et par la suite, on lui en demandait un seul. Il aurait besoin d'empressement pour arriver à surmonter sa paresse, tentant de le décourager, de dépenser la moindre somme. Avant de faire notre petite pause et d'affronter la dernière partie de notre émission, donner un enseignement de Shlomo Ameler qui dit « Va trouver la fourmi paresseuse. Observe ses façons d'agir et deviens sage. » Si on réfléchit à la façon d'agir de la fourmi, on sera stupéfait. Elle n'a pas de Gan Eden, ni de plaisir à étudier la Torah, et malgré tout, elle ne somnole pas. Elle est toujours en action et ne tarde pas à se réveiller. Sans maître, ni supérieur, ni réveil matinal, sa grandeur, elle est qu'elle est toujours en action. Par rapport à la fourmi, Midrash Rabbah rapporte que sa vie ne dure que 6 mois. Son besoin en nourriture, toute son existence, ne consiste en un grain et demi de blé. On a trouvé une fois dans une fourmilière 300 corps de blé, ça veut dire 70 tonnes. On lui a demandé, les Rami dans le Midrash, pour quelle raison la fourmi a ramassé cette quantité importante de blé. Et on a répondu que peut-être à Dieu me rallongera la vie à la fourmi. Et c'est pour cela qu'elle a amassé cette quantité, pour que tout soit prêt le cas échéant. Rami précise que dans le monde se trouvent des milliards de fourmis. Et aucune fourmi n'a jamais vécu plus de 6 mois. La probabilité que Dieu change sa nature pour qu'elle vive plus longtemps est extrêmement faible. Malgré cette infime probabilité, la fourmi œuvre sans cesse toute son existence, tandis que l'homme paresse, sans s'affairer pour une chose éternelle, est clair à 100%, ce qui est certain qu'il mourra et qu'il aura à ce moment un énorme besoin de son capital spirituel qu'il aura acquis dans ce monde-ci. Alors surtout, ne nous quittez pas. Rendez-vous dans un instant après une page de publicité. A tout de suite.
La Paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce de Divrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mizvota, de garder les mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
La Paracha nous parle. Écoutez ce que la Paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Voilà, chers amis, nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission, La Paracha nous parle. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, poser des questions, apporter des suggestions, voire même poser des critiques. qui seront les bienvenus. L'adresse de la radio est la suivante, radio@torah-box.com. Et donc finissons donc cette émission sur la parasha de Vaïchlar, paresse ou effort, que choisir? Alors tout le monde se reconnaîtra dans cette fameuse situation que je vais décrire, qu'une femme se lève le matin, elle voit la longue liste de ce qu'elle doit faire durant la journée. Elle doit habiller les enfants, s'occuper d'eux, préparer leur goûter pour l'école. Par la suite, elle doit ranger la maison et faire la vaisselle. Elle doit préparer le dîner et elle n'a pas de force. Que fait-elle? Elle rentre dans sa chambre à coucher et s'allonge sur le lit avec un linge humide sur le front. Elle pose à ses côtés un verre de thé et une boîte d'aspirine et annonce à son mari qu'elle est en train d'agoniser. Elle ne peut rien faire aujourd'hui, mais vraiment rien. Que fait le mari? Il ne veut pas d'une femme morte, il a pitié d'elle et prépare les enfants. Il fait la vaisselle, arrange la maison et renonce avec joie au repas du midi. Avec un cœur opprimé, il sort de la maison et va dire des Tehillim pour la santé de son épouse, allongée et agonisante. Certaines se reconnaîtront, d'autres diront « Alvaï que j'ai un mari comme cela ». Voilà que quelques instants plus tard, une certaine résurrection des morts s'effectue à la maison. Lorsque la voisine sonne à la porte, madame saute du lit. Tout en courant, elle se débarrasse du linge humide qui était sur son front. Il ne reste presque plus aucun souvenir de son horrible migraine qui l'accablait depuis le réveil. Pourquoi? Comment? Cela est très simple. Avec de la volonté, on peut aplanir des montagnes. Il n'y a ni maladie ni paresse. Mais lorsqu'on ne veut pas, tous les prétextes du monde sont bons. C'est un nom pour lequel nous devons nous souvenir que la paresse n'est qu'un prétexte. Une tromperie, tout simplement. Si nous voulons réellement remplir toutes nos obligations, rien ne pourra t'en empêcher et nous découvrirons qu'il est si simple de faire face à la paresse et de la vaincre. De nos jours, chers amis, les gens ont besoin de confort. Un sèche-cheveux, parce qu'il fait froid maintenant. Un lave-vaisselle. Un distributeur d'eau chaude et d'eau froide filtrée. Tout l'automatisme possible. Il est difficile d'imaginer, et je vis en même temps que vous, ne pensez pas que je vis dans les années de la préhistoire, mais il est difficile d'imaginer à quel point le mauvais penchant a réalisé des exploits pour les gens. Les adolescents ne savent déjà plus travailler. Une femme se marie sans même savoir cuisiner, et elle achète du tout prêt. La machine est puissante, et les femmes sont faibles comme du papier. L'épouse, au lieu de faire les tâches ménagères, elle emploie une femme de ménage. Une femme m'a dit qu'elle ne voulait pas travailler, mais s'opposait pas à la suite. C'est ce que j'ai dit ce matin dans un cours à la synagogue où j'officie, à parler de la cachérisation de la viande. Et les hommes me regardaient, ils me disaient, mais c'est quoi ça? Mais ma femme n'a jamais fait ça. Je fais les courses, tout est cachérisé. C'est une erreur. Le travail, c'est la santé. Personne ne meurt en travaillant. Beaucoup sont morts par manque d'activité. Lorsqu'il n'y a pas d'activité, des maladies apparaissent et le corps se détériore. On m'a raconté qu'une fois, il y avait un adolescent qui a étudié dans une yeshiva. Excellentissime. Il se levait tard tous les matins pour la prière de Shacharit, la prière du matin. Il était atteint d'une place de la maladie du sommeil. Alors, les rabbanim de la yeshiva ont discuté ensemble de ce problème. Essayé de le convaincre de se lever à l'heure, mais le jeune élève campait sur sa position. Il prétendait qu'il n'y arriverait pas, que c'était sa maladie. Par la suite, il s'est détérioré au fur et à mesure, il a quitté la yeshiva et il s'est engagé dans une autre voie. Un des rabbinis de la yeshiva l'a rencontré plus tard. Et il a raconté fièrement une histoire prouvant sa vigueur dans le chemin qu'il avait pris lorsqu'il a quitté la yeshiva. Qu'il avait réussi un business, qu'un soir il avait eu un dîner d'affaires extrêmement important. Il s'était couché à 2h du matin après une journée éreintante de réunions et de stress, et qu'il s'est réveillé deux heures plus tard pour une nouvelle journée de travail. 2 heures de nuit, il a dormi. Et le Rav lui a dit, 2 heures, c'est ce que dorment les grands de la Torah. C'est l'occasion de lui faire des remontrances. Lorsque tu étudies la yeshiva, Tu ne pouvais pas te réveiller en l'honneur d'Hachem, même après une nuit de 8 heures de sommeil. Par contre, pour un contrat signé avec un homme fait de chair et de sang, tu t'es levé de lit après seulement 2 heures de sommeil. Et ce Rosh Yeshiva, il m'a raconté une autre histoire sur un rabbin qui était au Kollel. Il avait du mal à étudier la Torah. Il est fatigué. Si on lui donnait 1000 euros, peut-être qu'il réussirait à surmonter sa fatigue. Parfois, il suffit de dormir une demi-heure supplémentaire le matin sur le compte de l'étude. Mais s'il travaillait dans une usine, est-ce qu'il pourrait se permettre un tel comportement? On lui aurait déduit ce temps de son salaire. C'est ce que disent nos maîtres dans les Perkei Avot. Que le sommeil du matin est une des choses qui exclut l'homme du monde. Parce qu'il ne s'agit pas d'une demi-heure de sommeil supplémentaire, mais d'un des sommeils qui détériore son monde. Il perd du temps d'étude, il perd de la vie. Le Ramcha, Rav Moshe Chaim Lotod, dont on a parlé tout à l'heure, rapporte que le verset de Shlomo Melar dont on a vu tout à l'heure, « J'ai passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble, d'un homme privé de sens. » Commente de la façon suivante ce verset. Que Shlomo Melar voyait tout par Ruach HaKodesh, par inspiration prophétique, du début du monde jusqu'à sa fin. Mais même en sachant qu'il dominait les mondes d'en haut et d'en bas, il ne s'est pas fié à sa compréhension au sujet de tout ce qui touche à la paresse. Il a constaté de lui-même, comme disait un peu plus tard le texte, et voilà qu'il était tout envahi par l'ivraie. Les ronces en recouvraient la surface. Et Shlomo Melar finit en disant « L'enclos de pierre était en ruine. » Quelle est l'intention du roi Salomon par ses propos? Que vient-il nous enseigner? Shlomo Melar veut nous enseigner par des paroles de Torah ce qui attend le paresseux. L'enclos de pierre, ça représente les engagements pris par un homme pratiquant, qui soit la base de son épanouissement et sa prospérité. Pour quelle raison l'enclos de pierre était en ruine? Car lorsque toute une saison d'études s'est achevée et que le paresseux fait un bilan personnel, il ressent une descente spirituelle. Il a froid à la Neshama. Et voilà qu'il était tout envahi par l'ivraie, disait le texte. Il ne se souvient pas de son étude. Le peu de ce qu'il a étudié n'est pas encourageant. Et donc, dira le texte, les ronces en recouvraient la surface. Il regarde sa liste d'engagements. Il s'étonne et il est déçu. Au plus profond de lui-même, du gouffre entre ce qu'il avait prévu de faire et ce qu'il a réalisé. Il avait prévu de se lever tôt, prier avec intention, étudier avec sérieux, écrire des résumés, réviser son étude pas moins de 4 fois, pour que l'étude ait une valeur. Et que s'est-il passé? L'enclos de pierre était en ruine. La paresse a tout détruit. Et rien n'a fleuri de tous ses projets. Pour ça que Shlomo Melar a dit, j'ai vu, j'ai médité à la chute du fainéant. Et de cette vue, j'ai tiré le son que quoi? Que je voulais me préserver d'une telle situation. Le maître du monde a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu a tenté de s'esquiver, mais Hachem n'a pas renoncé. Et durant toute une semaine, chers amis, Hachem s'est confronté à Moshe et à la fin, il a accepté. C'est ce que dirait la paracha dans Shemot. Pendant ce voyage, il s'est arrêté dans un hôtel et Hachem l'a abordé, il a voulu le faire mourir. Pourquoi? Car il n'avait pas circoncis son fils. Et pourquoi Moshe ne l'a pas fait? Car il était occupé à faire une autre mitzvah. Hachem lui a ordonné de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et le principe veut que celui qui est occupé à faire une mitzvah est dispensé de faire une autre mitzvah. Alors, en ce cas, vous me direz, car je vous entends à travers la radio, pour quelle raison Hachem a voulu le faire mourir? Il semblerait qu'il y avait une énorme accusation contre Moshe. Car jusqu'à présent, il y avait une grande urgence à sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et soudain, la Brit Mila a tout repoussé. Encore une fois, le Ramchal, Rav Moshe Chaim Lotod dans Misset Echarim, écrit à propos des paresseux qu'ils ont des prétextes pour chaque situation et prétendent sans arrêt que leur paresse est justifiée. Moshe Rabbeinu n'avait pas l'obligation de faire la Brit Mila de son fils, mais face à la stature spirituelle de Moshe Rabbeinu, la sévérité était grande. et le Ramban Nahmanide dit que Moshe Rabbeinu devait faire la brit mila de son fils, le laisser avec son épouse et se rendre en Égypte pour appliquer la volonté d'Hachem. Et donc on voit qu'il n'y a ni conseil ni sagesse à l'égard de HaKadosh Baruch Hu. C'est uniquement nous et rien que nous qui nous demande de faire en sorte de comprendre ce que nous devons faire. Et on ne peut pas passer à côté de cela. On va faire en sorte que le véritable grand homme est celui qui est considéré grand aux yeux des autres, mais petit à ses yeux. Si un homme se considère grand, il est petit aux yeux des autres. Dans le livre de l'élève du Rabbi Chaim Vital Sharei Kedusha, il est dit que si un homme ou une femme réalise une bonne action et en tire profit, comme on reçoit de l'argent ou des honneurs, on diminue de la même valeur le salaire de la mitzva réservé pour le monde futur. Et celui qui veut y recevoir l'intégralité de sa récompense, il sera vigilant de ne rien recevoir ici-bas. L'homme non présomptueux a dans les mains les clés de la richesse éternelle dans ce monde et dans le monde futur. Nous appelons tous des juifs Yehudim, du nom de Yehuda. Nous devons réfléchir pourquoi notre nom a été choisi d'après le nom de la tribu de Yehuda et pas celui d'une autre tribu comme Reuven, Shimon, Lévi ou autre chose. Hachamim, on dit que c'est parce que Yehuda a reconnu Modé, Odaa, ses reconnaissances, remerciements. Yehuda était prêt à reconnaître qu'il était le père de l'enfant que portait Tamar en disant « Elle est plus juste que moi ». Malgré la plus grande honte qu'il a subie à cet instant, le peuple juif durant toutes ces générations va toujours appeler d'après le nom de Yehuda car la force de reconnaître c'est la première vertu du juif. Parfois un homme vexe son épouse mais il n'est pas prêt à le reconnaître. Il prétexte en disant « Je fais ce qu'il faut ». Yehuda était prêt à reconnaître s'être trompé. C'est pour cela qu'il a mérité que le peuple juif porte son nom. Parfois, un homme fait un petit geste de bonté. Il ne sait pas à quel point sa valeur est énorme. Pour l'éternité, dans ce monde, le monde futur, et aussi pour la résurrection des morts. Parfois, un petit sourire, un petit mot gentil à l'autre, ont une répercussion énorme pour l'éternité. On raconte qu'il est arrivé une fois aux États-Unis qu'un homme a appuyé sur un bouton et a été condamné à mort sur la chaise électrique. Pourquoi ? Par le fait d'avoir appuyé sur ce bouton, il a coupé le courant dans tout le pays avec pour conséquence des accidents de circulation, de cas de décès. Des malades, durant une opération, sont morts. Il n'avait pourtant appuyé que sur un bouton. Il a ainsi provoqué des malheurs et des catastrophes dont on ne peut pas s'imaginer la fin. Sachez, chers amis, chaque acte, bon ou mauvais, a une répercussion énorme pour l'éternité. Cela ressemble au bouton sur lequel on a appuyé par hasard. En appuyant sur un bouton, on peut détruire le monde ou on peut le construire. Chaque mot en trop peut être semblable à une impulsion sur le monde d'une bombe atomique. Ô combien faut-il être vigilant pour chaque mot prononcé, chaque sourire, chaque expression contrariée du visage. Il faut toujours être chaleureux avec son prochain, se préoccuper de son bien et on ne peut même pas s'imaginer la récompense que l'on méritera à ce sujet. Ça demande à chacun d'entre nous des efforts, certes, mais est-ce que véritablement on n'est pas là pour ça ? C'est tout le but de notre existence, faire en sorte que nous avançons, que chaque jour de notre vie qui passe ne soit pas comme un automatisme de dire « il faut se lever et puis faire ce qu'on doit faire d'une façon mécanique, de façon machinale ». Nous avons des choses à faire et si on met de la volonté et du courage, de la force, du plaisir, alors on a tout à gagner et on leur transmettra toute cette notion à nos enfants, à la prochaine génération, qui fera que nous serons après tous, avec un même élan, ceux qui nous ont quittés, ceux qui vivent actuellement et ceux qui arrivent dans les prochaines générations, à courir, n'élèrent, à aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu lorsque le troisième temple sera reconstruit et que nous serons tous fiers et heureux d'assister à la vue du Mashiach, avec le troisième Tamidash et de revoir tous ceux qui nous ont quittés. C'est comme ça que notre émission touche à sa fin. J'étais comme chaque fois heureux de passer cette heure avec nous. On se retrouve, merci Hachem, la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et à très bientôt. La Paracha nous parle. Vous pouvez la suivre sur Radio Torah Box. À bientôt, Kol Tov.